VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Nouakchott, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Les ministres de la Défense ou les représentants des 28 pays de la CENSA, de la communauté des États sahélo-sahariens, dont font partie notamment la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad, ont convenu aujourd'hui de renforcer leur coopération en matière de lutte antiterroriste à la fin d'une réunion de deux jours à Sharm el-Sheikh, la station balnéaire du Sinaï en Égypte. La résolution en ce sens, qui sera soumise au président des États membres, met l'accent sur un partage des renseignements et l'établissement de patrouilles conjointes jointe aux frontières, a souligné le ministre égyptien de la Défense, Sedki Sobhi. Il a ajouté que les participants ont aussi convenu de mettre en place un centre antiterroriste basé au Caire. Plusieurs pays membres de la CENSAD sont confrontés aux violences des djihadistes qui ont même pris le contrôle de certaines régions dans des pays comme la Libye. Le terrorisme ignore les frontières, aucun État ne peut s'en prémunir seul. Il faut des réponses coordonnées et concertées, avait déclaré hier à la réunion le Nigérien Ibrahim Sani Abani, secrétaire général de la CENSAD. Nigeria, la justice nigériane a épinglé plus de 300 sociétés et individus, dont des responsables militaires, pour avoir détourné plusieurs dizaines de millions de dollars grâce à des contrats fictifs. C'est ce qu'a annoncé la présidence nigériane dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette affaire de corruption est liée à Sambo Dasuki, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de l'ex-président Goodluck Jonathan, qui a servi de juin 2012 jusqu'à son limogeage l'année dernière par l'actuel chef de l'État, Muhammadu Buhari. M. Dasuki est au centre d'un vaste scandale de détournement de fonds, initialement destiné aux forces armées pour lutter contre le groupe islamiste Boko Haram et qui aurait plutôt servi au Parti démocratique populaire PDP, la formation de l'ex-président Goodluck Jonathan, pour financer sa campagne de réélection. Le Soudan du Sud a accusé aujourd'hui le Soudan d'avoir bombardé son territoire et de soutenir la rébellion contre le gouvernement sud-soudanais, alors que Khartoum reproche également à son voisin du Sud d'appuyer les insurgés qui s'opposent au régime soudanais. Selon le porte-parole de l'armée sud-soudanaise, Lul Rai Kwang, un avion Antonov de l'armée de l'air soudanaise a bombardé les positions défensives sud-soudanaises à l'est de la ville de Renk, dans l'état du Haut-Nil, et un total de 12 bombes ont été larguées, sans faire de victimes. Des bombardements qui n'ont pas pu être confirmés de sources indépendantes. Présidentielle au Congo-Brazzaville, les populations ont diversement réagi à l'appel du général Jean-Marie Michel Mokoko, un des candidats d'opposition qui demande la désobéissance civile. Dans les quartiers sud de la capitale et à Pointe-Noire, où les forces de sécurité sont déployées dans les rues, les populations estiment que le général Mokoko a bien raison de contester les résultats du scrutin. Mais dans le camp du président réélu, Denis Sassou Nguesso, dont la victoire a été fêtée hier au quartier Mpila, l'appel à la désobéissance civile n'a pas sa raison d'être. De Brazzaville, notre correspondant Nguela Nguso.
Quelques heures seulement après la publication des résultats à l'élection présidentielle, le général Jean-Marie Michel Mokoko, donné troisième avec 13% de suffrage, appelait à la désobéissance civile. D'après un message publié sur les réseaux sociaux, le peuple devait barrer la voie à ceux qui ont volé sa victoire. Dans les quartiers contestataires où militaires et armements sont déployés, les populations comprennent l'appel du général.
Vraiment, s'il y a un mouvement sérieux de désobéissance civile, j'adhère à ce mouvement.
Oui, moi j'ai le soutien.
Les gens en ont déjà marre.
Dans le camp du président Sassou Nguesso, la victoire à plus de 60% a été fêtée hier au stade Saint-Denis de Mpila. Ses partisans dénoncent l'appel du général Mokoko et invitent les partisans des candidats malheureux à se joindre à eux.
Lorsqu'il parle de désobéissance civique, mais je crois que ça ne marchera pas aussi, parce que le peuple n'est pas dupe.
Nous avons été lynchés et jusqu'alors nous ne sommes plus dans nos maisons respectives. Nous sommes dans des hôtels en ce moment.
Lorsqu'on fait la désobéissance civique, nous abîmons ce qu'on a construit.
En entendant la publication des résultats par le camp des opposants, Brazzaville et Pointe-Noire sont toujours sous le qui-vive. Nguela Nguso, Brazzaville, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, des partisans du président Paul Biya multiplient les appels pour qu'il organise des élections anticipées afin de se représenter. Mais pour les opposants, 34 ans au pouvoir, ça suffit. Ce jeudi, chacun a essayé de montrer sa force dans les rues de Yaoundé. Un reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka, rendu par Lionel Gaïma.
D'après la chanson, Paul Biya, notre leader, notre père, a 84 ans. Il est encore solide pour être président aussi longtemps qu'il voudra. Des messages et événements pareils se multiplient à travers le pays. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, célèbre son 31e anniversaire. Charlemagne Messanga Nyamdig, membre du comité central du RDPC, souhaite que Biya modifie la constitution et organise des élections anticipées.
Le secteur des Camerounais aime Paul Biya, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'aiment. Ils ont cru en cet homme-là, ils continuent de croire en cet homme-là et ils veulent continuer avec cet homme-là pour relever les défis parce qu'il a montré de par son expérience, de par son courage, de par sa détermination, qu'il est le meilleur à pouvoir nous protéger face aux incertitudes du présent et de demain.
À travers Yaoundé, l'opposition de son côté a essayé de donner la voix dans des contre-manifs. Pour la députée Patricia Ndam Njoya, le pays devrait se concentrer sur des questions plus urgentes, comme le développement, la réforme du code électoral et en finir avec Boko Haram qui attaque et tue dans l'extrême nord du pays.
C'est très curieux. On se demande pourquoi est-ce que, avec l'insécurité ambiante, les problèmes que les Camerounais connaissent aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le moment en plein mandat? Nous, vous ne trouvez pas qu'il y a un jeu? Nous, on pense qu'il y a mieux à faire au Cameroun aujourd'hui et on ne comprend pas cette précipitation, sinon qu'il y a matière à penser que le gouvernement est inquiet aujourd'hui.
L'élection présidentielle est prévue en 2018. L'opposition camerounaise était chaque fois allée en rang dispersé au précédent scrutin. Madame Njoya estime qu'il est temps que les opposants fassent bloc derrière un candidat unique. Cette idée ne semble guère inquiéter Benoît Ndong Soumé, membre du comité central du parti au pouvoir.
Ce que l'on doit observer chez un dirigeant politique, c'est ce qu'il fait avec les moyens qu'il a pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Lorsqu'on appréhende la chose de cette manière-là, il faut être aveugle pour ne pas voir ce que fait notre président.
Monsieur Biya a fait modifier la constitution en 2008 pour éliminer le verrou de la limitation des mandats. À 84 ans, il est le plus vieux président africain après Robert Mugabe, qui vient de fêter ses 92 ans. Pour le moment, Paul Biya ne montre aucun signe de vouloir prendre sa retraite.
Actualité aux États-Unis maintenant, le Malien Alassane Ould Mohamed a plaidé coupable hier à New York du meurtre d'un diplomate américain à l'extérieur d'un restaurant au Niger en décembre 2000. Les précisions de Michel Joseph.
Sa victime, l'Américain William Baltimore, âgé de 51 ans, se trouvait en Afrique de l'Ouest pour rétablir le bureau de l'attaché militaire du département américain de la Défense. Le jour même où il devait rentrer chez lui, en Caroline du Nord, deux hommes armés ont ouvert le feu sur lui après lui avoir demandé les clés de sa voiture. Touché en pleine poitrine, à l'extérieur d'un restaurant de Niamey qu'il venait de quitter au petit matin du 23 décembre 2000, il a rendu l'âme. Les meurtriers ont aussi tiré sur un de ses collègues, le sergent Christopher McNeely, qui a survécu. L'un des assaillants, Alassane Ould Mohamed, âgé de 46 ans, a plaidé coupable de complot de meurtre devant le juge William Kuntz au tribunal fédéral de Brooklyn. Il risque 25 ans de prison et sera fixé sur son sort le 26 avril. Recherché et arrêté par le Niger, Mohamed, qui était également accusé du meurtre de 4 Saoudiens à la frontière entre le Niger et le Mali en 2009, s'était évadé en juin 2013 après une opération attribuée à des extrémistes liés à Al-Qaïda. Il avait à nouveau été arrêté par des forces françaises dans le nord du Mali en novembre 2013 et extradé par le Mali vers les États-Unis en mars 2014.
Attentat de Bruxelles, le secrétaire d'État américain John Kerry est à Bruxelles depuis ce matin pour présenter les condoléances des États-Unis à la Belgique, secouée par les attentats qui ont fait 31 morts et 300 blessés mardi. « Je suis bruxellois », a dit le chef de la diplomatie américaine lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre belge Charles Michel. Et également au programme de John Kerry, venu pour offrir le soutien de Washington à la Belgique dans la lutte contre le terrorisme, des consultations avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et une entrevue avec le roi des Belges. Et pour terminer, le gouvernement français annonce avoir déjoint un projet de nouvel attentat et arrêté un suspect déjà condamné en Belgique avec l'organisateur présumé des attaque djihadiste de novembre à Paris, Abdelhamid Abaoud. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.